toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Engagés. Nous sommes trois étudiantes en BUT Carrière Sociale Parcours Annuation. Je vous présente Marion, de son surnom Marionnette, jeune intrépide qui veut tenter une autre formation pour l'année prochaine. Grâce à elle, nous allons pouvoir varier nos questions grâce à son sens d'originalité.
Je vous présente Paloma, une fausse blonde la plus fêtarde d'entre nous. Elle va apporter une touche de folie dans ce podcast.
Et enfin, voici Lisalou, donc Lisalou pour les intimes ou double L pour d'autres. Toujours débordée, elle va apporter une touche de spontanéité dans ce podcast.
Et avec nous aujourd'hui, Monsieur Fintin, coprésident de l'association Solidarité Partage, nous fait le plaisir d'être présent. Pardon. Bienvenue sur notre podcast, Monsieur Fintin.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
On vous remercie de nous accorder ce temps d'échange.
Dans ce podcast dédié à l'histoire de l'association engagée, nous allons retracer le parcours des fondateurs, découvrir comment l'idée de créer cette association a vu le jour et comprendre les raisons de leur engagement. Ensuite, nous parlerons de l'évolution de l'association depuis sa création, de ses premières actions jusqu'au moment de son rayonnement actuel.
Nous irons aussi au cœur du projet, donc sur le terrain au Honduras, à travers des souvenirs, des rencontres et des émotions fortes vécues sur place. Enfin, nous aborderons les défis rencontrés et les leçons tirées. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce témoignage inspirant.
Est-ce que vous êtes prêts pour les questions ?
Oui, allons-y.
Alors, pour commencer, pouvez-vous nous raconter votre parcours ?
Alors, mon parcours au niveau de l'association, donc, je précise tout de suite que je ne suis pas un des membres fondateurs, mais que je suis dans l'association depuis le tout début, depuis 1981. Donc, c'est une vieille association de 44 ans d'histoire, voilà. C'est pas rien dans une vie.
Oui, en
voilà.
Effet.
Est-ce que vous connaissez, comment est venue l'idée de créer l'association ?
Alors en fait, c'est venu de trois jeunes filles qui avaient rencontré une personne qui mettait en place des centres nutritionnels en Amérique centrale. Et puis, elles nous ont rencontrés à plusieurs d'une autre association qui existait déjà sur Chemillé, qui était en fin de vie. Et puis, voilà, elles nous ont sollicité pour financer tout d'abord un centre nutritionnel au Guatemala, Okay. Voilà, dans un village maya du Guatemala.
D'accord.
Et pourquoi avez-vous choisi le Honduras spécifiquement ? Est-ce que c'est un pays qui a une histoire personnelle pour vous ?
Alors non, c'est un petit peu par hasard, en fait. Dès la deuxième année, en 1982, on a commencé à financer un autre centre nutritionnel dans un village du Honduras. Et puis, ça a tenu jusqu'en 1988. Et là, c'est une jeune Française qui était partie en coopération là-bas, à qui on a demandé d'aller voir si le centre nutritionnel fonctionnait. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il ne fonctionnait plus. Et suite à un ouragan qui a eu lieu fin 1988, elle nous a fait appel pour financer tout d'abord un lactarium sous des tentes de l'armée. Et puis, petit à petit, c'est devenu un centre nutritionnel, puis un centre infantile. Voilà.
Ok. Et du coup, c'est comme ça que vous avez pu trouver les contacts sur place ? Ou vous en avez trouvé au fil du temps, en allant là-bas ou...
Alors, c'est Sylvie, la personne dont je vous parlais, qui est en coopération là-bas, qui a trouvé la directrice, Teresa Rosales. Voilà. Et Teresa, depuis le début, depuis 1990, elle est directrice du centre. Alors, c'est une personne remarquable, mais on en parlera peut-être plutôt dans les rencontres importantes. Voilà.
Une question qui est assez importante, c'est comment l'association a évolué depuis sa création, parce que donc, au départ, elle était au Guatemala, maintenant elle est au Honduras. Comment l'association a évolué ?
Alors, tout d'abord, préciser que l'association, c'est une association locale, c'est-à-dire qu'on ne dépend d'aucune autre structure, qu'on n'a pas de salariés, qu'on a très peu de frais de fonctionnement, et que le but de l'association, c'est qu'un euro qui nous est donné, c'est un euro qui serve vraiment là-bas. Voilà, donc ça, c'est le leitmotiv depuis le début de l'association, et on a toujours tenu ça. Rappelez-moi votre question.
Comment l'association elle a évolué du coup depuis sa création jusqu'à maintenant ?
Voilà. Donc on a financé des centres nutritionnels et on sentait bien que c'était pas suffisant, que en plus de la nourriture, il faut apporter autre chose aux enfants, donc de l'éducation et puis du vivre ensemble. Et donc très vite. Au Guatemala, on a tenu jusqu'en 2004 avec des religieuses espagnoles. Et ces religieuses espagnoles, en 2004, on ne savait plus trop à quoi servait l'argent qu'on envoyait, donc on a décidé d'arrêter. Et en plus, c'était juste simplement nourrir les enfants. On n'avait jamais pu obtenir le fait qu'il y ait aussi de l'éducation. Et Honduras, par contre, très vite, la directrice, elle a souhaité que ce soit un centre nutritionnel qui apporte aux enfants de l'éducation, du vivre ensemble, voilà, du respect. Enfin. Et donc, l'association a évolué vers ça, petit à petit. Et puis, depuis 2000, que je dise pas de bêtises, depuis 2012, on ne finance plus que le centre infantile du Honduras. Entre-temps, on a financé aussi une coopérative de tissage au Guatemala, des plantations d'arbres dans un village guatémaltèque.
Enfin, voilà. Ouais.
Vous avez fait beaucoup de choses et il y a de nombreuses valeurs qui regroupent l'association finalement.
Oui.
Et comment ce centre infantile s'est fait connaître? Quelles ont été les premières actions marquantes?
Alors... Tout au début, on a en fait les quelques membres de l'association, on a pris notre bâton de pèlerin, si on peut dire, et on a visité tous les villages autour de Chemillé pour présenter ce qu'on souhaitait faire. Voilà. Donc au début, c'était sans trop de succès. Hein, il faut bien dire, on a fait des réunions parfois où on était seul. Voilà. Donc, mais petit à petit, ça a pris et voilà. Maintenant, on a 92 adhérents exactement, donc beaucoup sont autour de Chemillé, mais on en a aussi dans le Maine-et-Loire et puis un petit peu partout en France. Voilà.
C'est bien ça. Combien de fois êtes-vous allé à Honduras? Est-ce que c'était toujours la même sensation que la première fois
Alors, moi j'y suis allé personnellement en 1992, c'est-à-dire 3 ans après le début du centre, et en fait on y allait avec une autre personne de l'association pour leur dire qu'on arrêtait.
D'accord.
Parce qu'on était vraiment peu nombreux autour de la table quand on se réunissait, et donc on s'est dit est-ce que ça vaut la peine de continuer, donc on est allé voir sur place, et quand on est revenu on savait qu'il fallait pas arrêter, quoi. Voilà, donc on a repris notre bâton de pèlerin, on avait fait des petits films et tout ça, donc on est allé voir les gens à nouveau, et puis du coup ça redonnait du punch un peu à l'association, et j'y suis retourné en 2011. Alors tous les gens de l'association, on y allait régulièrement tous les 5 ans à peu près. Mm-hmm. Hein, donc moi j'y suis retourné en 2011. Alors c'était complètement différent parce que en 1992 c'était une cabane en bois qui accueillait une cinquantaine d'enfants pour un repas, et puis il y avait une petite classe. Et quand j'y suis retourné en 2011, du coup il y avait quatre classes. On accueillait 100 enfants à cette époque-là. Maintenant on n'est plus qu'à 70. Voilà, donc c'était complètement différent. Oui, le centre a été construit en dur, hein, grâce à l'argent de l'association. Hein. Et donc, c'était oui, très différent. Mais c'était aussi très différent au niveau de la sécurité. En 1992, on voyageait en bus et puis on montait à pied au centre infantile. Et puis en 2011, eh bien, plus question de voyager en bus et plus question de monter à pied. On montait en voiture avec la directrice et on ne sortait plus du centre. Voilà, c'était... La vie a beaucoup changé au Honduras, oui.
Ouais, en effet, oui.
Et du coup, à travers tous ces voyages, vous avez dû rencontrer des gens, partager des histoires. Est-ce que vous pouvez nous partager une de ces rencontres qui vous a marqué particulièrement?
Alors, on va parler surtout de Teresa. Teresa, c'est la responsable du centre infantile depuis 1990. Or, Teresa, c'est une personne qui était professeure de collège. Et pour pouvoir s'impliquer dans le centre infantile, elle faisait des cours uniquement le soir, voilà, dans un collège de Tegucigalpa. Alors c'est une personne remarquable, c'est une personne qui est persuadée que le développement ne passe que par l'éducation, et que si on n'éduque pas les enfants dès qu'ils sont jeunes, eh bien le pays n'évoluera jamais. Donc elle a toujours tenu ça. Je peux vous dire que c'est pas facile dans un pays comme le Honduras de tenir des engagements comme ça. Parce que c'est un pays où il est très difficile de vivre et où les gens qui ont un peu de culture et un peu de formation ont tendance à s'en aller dans d'autres pays. Voilà, ils partent. Il faut savoir qu'un quart de la population du Honduras vit à l'étranger.
Hein? Ok, voilà. D'accord. C'est intéressant.
Et durant cette aventure, est-ce que vous avez rencontré des obstacles ou des moments difficiles?
Bien sûr, oui. C'est pas toujours évident de... de mettre fin, par exemple, quand on a mis fin au centre nutritionnel de Santa Rosa, de Santa Cruz, des Alta Verapaz, là-bas, au Guatemala. Il y avait toute une histoire entre 1981 et 2004, et quand il faut arrêter ça, bon, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Et puis, il faut être cohérent avec ce que veut faire l'association, quoi. Donc, voilà. Alors, c'est la même chose avec ce qu'on avait, la coopérative agricole la coopérative de tissage dans le Design Gagnon, c'est pareil, on a arrêté parce que ça ne correspondait plus à ce qu'on souhaitait, et puis on voyait que les gens avaient tendance à profiter un peu de l'argent de l'association et pas pour le développement local, quoi. Voilà. Donc il y a eu des moments difficiles, et puis dans l'association même, parfois, voilà, il y a des tensions. Oui. Sur 44 ans d'histoire, c'est un peu normal.
Dans ces moments de doute, de difficulté, qu'est-ce qui vous faisait dire « je continue quand même, je persistais je... » Si vous faisiez aimer en fait cette association, le fait d'aider peut-être, de les voir heureux.
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de chance maintenant d'avoir des liens beaucoup plus faciles qu'au départ. Parce qu'en 1981, pour avoir des liens avec les centres qu'on finançait, c'était forcément des liens épistolaires. Donc le courrier parfois parvenait, parfois ne parvenait pas. Maintenant, on a la chance d'avoir les technologies d'Internet qui sont quand même très pratiques. Donc, on reçoit quotidiennement ou pratiquement quotidiennement des photos de ce qui se passe au centre infantile. Et c'est très, très motivant pour nous. Et quand on va là-bas, on sait qu'on va retrouver des enfants qui sont heureux de vivre dans ce pays qui est vraiment si difficile, dans ce quartier si difficile. Alors, c'est ça qui nous mène. C'est ça qui nous donne envie de continuer, parce qu'on voit des enfants heureux et on sait qu'il y a des enfants qui sont passés par le centre et qui, petit à petit, ont réussi à faire des études au collège et puis à l'université, qui sont devenus travailleurs sociaux, qui sont devenus enseignants. Voilà, donc ça nous motive, oui, bien sûr.
Si vous deviez résumer votre engagement en trois mots, seulement trois mots, qu'est-ce que ce serait ?
Facile, hein. Confiance, espérance... Et la confiance, l'espérance, et voilà, je sais pas.
Deux mots, c'est bien. Vous avez relevé le jeu, vous avez même fait mieux.
Et sinon, quels sont vos rêves ou vos projets pour la suite de l'association ?
Alors, notre rêve, mais c'est vraiment un rêve, c'est que l'association puisse continuer, parce que les membres de l'association sont vieillissants, voilà. Pour ma part, j'ai 71 ans, donc je n'imagine pas continuer jusqu'à 90 ans. Voilà. Et donc, notre rêve, c'est que des plus jeunes nous rejoignent et continuent l'aventure.
Très bien. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant la pause ?
Non.
Très bien, super, merci.
Ça fait fumer une cigarette, l'amour. fait mincir les silhouettes, ça fait casser des abat-jour.
Bon, avant de vous échapper, on vous propose de finir ce podcast en beauté avec un petit jeu qu'on adore, c'est le soit ou soit. C'est simple, on vous donne deux propositions et vous devez en choisir qu'une seule. Est-ce que ça va pour vous? Il n'y a pas de piège, c'est... voilà.
Allons-y.
Vous préférez agir dans l'urgence ou construire sur le long terme?
Construire sur le long terme.
Vous préférez travailler dans l'ombre ou être en première ligne?
Plutôt travailler dans l'ombre.
Préférez changer une seule vie profondément ou impacter 1000 personnes, mais très peu?
Je préfère changer une vie profondément, parce que ça permet ensuite d'en changer d'autres.
S'engager localement ou à l'international?
Donc je crois que ce qu'on a raconté depuis le début, c'est montre qu'on peut s'engager localement et en même temps à l'international.
Le choix est difficile, effectivement.
Oui.
Faire peu mais souvent ou faire beaucoup d'un coup?
Faire peu mais souvent.
Et partir sans rien connaître ou préparer chaque détail?
Alors voilà, ce sera mitigé parce que... Préparer sans rien connaître, c'est pas trop mon genre. Préparer, voilà, et puis s'engager comme ça, non, c'est moi, c'est entre les deux.
Un petit dernier pour la fin, avoir un impact énorme sans jamais le voir ou avoir un impact immédiat mais à toute petite échelle.
Avoir un impact immédiat à toute petite échelle.
Ok, très bien.
Et voilà, du coup, c'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir voyagé avec nous jusqu'à Honduras. Sans même avoir besoin de passeport ni de vaccin. On espère que cette histoire vous a touché, inspiré ou au moins fait sourire une ou deux fois.
Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, à votre tante, votre voisin, même votre chien. Tout le monde peut avoir envie de s'engager à sa façon. Et si vous vous demandez ce que vous pouvez faire à votre échelle, parfois un simple sourire ou un coup de main peut changer une journée.
Encore merci à Monsieur Fintin pour ce moment de partage. À très bientôt pour d'autres récits, d'autres voix et toujours un peu d'espoir dans les valises. Et bien évidemment, vous pouvez aller sur le site Solidarité Partage pour prendre contact si vous souhaitez faire un don ou connaître un peu plus encore sur l'histoire de l'association. Voilà.
Merci beaucoup.
Alors je précise simplement Solidarité Partage Chemillé parce qu'il existe plusieurs sites Solidarité Partage, plusieurs associations.
Ok, très bien. Merci pour la précision.
Merci.
Voilà, merci à vous.
Au revoir.